Maybe I'm out of luck, or maybe all of it's bad. I'm not sure why we broke up, it was the best that I'd had. To say it's all for the best, I think the fate is a lie. I know my hair is a mess, and you're a little bit high. Should I give it a chance? Is it ever enough? No more blood on our hands, no more fucking it up. Going out of my head, all the tears that I've bled. And what you said has got me hanging on. I can't help but walk through, you let my
Bienvenue dans la nuit sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle et je vais vous accompagner toute la nuit pour vous faire écouter en version originale les meilleurs moments de la rédaction. Pour commencer, découvrons un premier extrait.
Les écoles, les collèges, les lycées, les transports, le RSA, la santé, pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir qui gère quoi en France. Justement, savez-vous ce que gère exactement un département via le conseil départemental? Eh bien, nous avons rencontré le président du département de la Gironde, plus grand département de France métropolitaine, pour répondre à ces questions. Comment devient-on président d'un département? Que gère-t-il exactement et quels sont les projets en cours en Gironde? Jean-Luc Glaise nous a répondu et nous a d'abord parler de son parcours et de son arrivée un petit peu par hasard dans le monde de la politique.
Mon parcours est relativement atypique puisque je n'avais pas du tout imaginé à la fois un jour être élu et a fortiori être président de département. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme fonctionnaire territorial dans une petite mairie qui est celle de mon village à l'extrême sud du département, le village de Capsieux. Et j'ai commencé comme simple agent administratif parce que je cherchais une voie professionnelle sans avoir d'idée précise, ou plutôt j'avais eu des velléités de faire des études littéraires et d'être ensuite de m'engager en faculté au niveau d'études littéraires. Puis pour diverses raisons, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai commencé comme simple agent administratif. Quelques années plus tard, je suis devenu secrétaire général de ma mairie, suite au décès du précédent, qui était d'ailleurs conseiller général, et qui du coup a été un petit peu mon mentor, Jean Sango. Il a été mon mentor à la fois professionnel et puis de prise de conscience politique. Et ensuite, j'étais directeur de communauté de communes, et en 2004, le maire de l'époque, qui était lui-même conseiller général, aux côtés duquel je travaillais, m'a proposé de prendre le relais de sa fonction de conseiller général, dans ce qui était à l'époque le canton le moins peuplé de Gironde, le canton de Capsieux, donc 6 communes, 2300 habitants. Donc j'ai été élu. En 2008, il m'a été proposé d'être vice-président du département en charge de l'économie, de l'agriculture et du tourisme. Et en 2015, donc Philippe Madrel, qui était un président historique du département de la Gironde, il était là depuis 36 ans à la présidence, a décidé d'arrêter sa fonction. Et ce sont des collègues qui sont venus me chercher en me disant « c'est toi qui dois être président du département pour le prochain mandat ». C'était le jeudi avant le deuxième tour des élections départementales, donc quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Et il a fallu prendre la décision très rapidement. Donc j'ai plongé directement dans le grand bain sans trop savoir à quoi je m'exposais, sur quoi je m'engageais. Mais voilà, c'était une décision rapide qui m'a mené à être président. Voilà.
Après 6 ans passés à la tête du département, Jean-Luc Glaise a été réélu président de la Gironde en juillet 2021. Et nous lui avons demandé ce qui lui plaisait dans cette fonction.
D'abord, peut-être le fait d'être président d'une collectivité de proximité. Être président d'un département, c'est être très proche des populations, des habitants que l'on représente. C'est d'abord un département qui est assez extraordinaire parce qu'il est extrêmement divers et hétérogène, ce qui aussi entraîne un certain nombre de difficultés. Il est très urbain. Pour 7% du territoire qui accueille 50% de la population, mais il peut être aussi très rural, notamment sur les 93% restants, avec aussi l'autre partie de population. Il a aussi la particularité d'être très attractif, puisque nous accueillons 20 000 habitants de plus par an. Donc de gros enjeux, des exigences fortes en matière d'action publique. Et puis un département, c'est une collectivité des solidarités humaines et territoriales. Et les valeurs que je peux porter dans mon appartenance politique m'amène à pouvoir justement agir pleinement au titre des solidarités pour aider les plus vulnérables, les plus fragiles et ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est une collectivité qui me convient bien.
Et dans un département aussi diversifié que la Gironde, la difficulté est de ne laisser aucun territoire de côté, qu'il soit rural ou urbain.
Oui, et je crois que c'est un des grands enjeux de la Gironde. Philippe Madrelle disait souvent qu'il voulait éviter une Gironde à deux vitesses. Moi, je dis régulièrement que le cœur battant de la Gironde, c'est sans doute sa métropole, mais que ses poumons sont ses périphéries. Et que donc, à ce titre, il faut que nous veillions à essayer de corriger le déséquilibre entre territoire rural et territoire urbain. Il faut se rappeler que le département de la Gironde est un département qui a subi le plus de violences liées au mouvement des Gilets jaunes, qui était véritablement l'expression du sentiment d'isolement et d'abandon des territoires ruraux par rapport à une métropole qui est souvent vue comme un aspirateur à démographie et à économie, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, puisqu'il y a des territoires très divers au niveau de Bordeaux Métropole, dans des quartiers politiques de la ville qui sont véritablement en souffrance. Mais cette vision de cette métropole attractive a créé ce sentiment de fracture territoriale accentuée dans un département comme le nôtre. Et donc, nous essayons de veiller justement à la correction de ces déséquilibres le plus possible.
Et on en vient à cette question, quel est le champ d'action d'un département et que gère-t-il exactement? Quelles sont en gros ses compétences?
Alors dans les compétences fondamentales, il y a donc les solidarités humaines, c'est-à-dire toute l'action autour des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en insertion, de la protection de l'enfance. Donc ça, ce sont vraiment des compétences fondamentales qui nous sont attribuées par la loi. Il y a d'autres compétences, comme les collèges. Nous avons pour responsabilité les bâtiments ainsi que la restauration et l'entretien des collèges. Nous avons aussi la responsabilité des routes départementales, 6400 km dans ce département. Nous avons pour compétence la lecture publique, c'est-à-dire comment on organise le réseau des bibliothèques et comment on l'alimente en termes de matériel culturel. Voilà quelques compétences un peu fondamentales qui sont les nôtres et qui nous amènent évidemment à travailler sur ces questions-là. Il y a aussi les espaces naturels sensibles, qui sont dans les compétences départementales également. Donc voilà une partie de ce que nous couvrons comme champ, en complément éventuellement de ce que font d'autres collectivités, comme les communes ou les intercommunalités, la région, voire même parfois l'État. Je crois qu'il y a une grande méconnaissance en France de l'organisation administrative entre État, région, département, commune, intercommunalité. Donc il faut systématiquement faire œuvre de pédagogie, à nouveau. Mais il y a même des choses dans l'action publique départementale qui sont complètement invisibles. Même si les gens savent, par exemple, que nous avons pour responsabilité les collèges, très peu de monde sait que la production d'un repas pour les 56 000 collégiens chaque jour coûte 8 euros et qu'en réalité, le maximum de ce que paye aujourd'hui une famille est 2,90 euros et que ce différentiel, il est pris en charge par le département. Donc il y a plein d'actions que nous avons aussi qui sont complètement invisibles. Donc c'est une pédagogie permanente qu'il faut opérer pour faire comprendre l'utilité et l'importance du département qui intervient à tous les âges de la vie. J'ai pas cité tout à l'heure la protection maternelle et infantile, mais par exemple nous aidons les jeunes parents à pouvoir justement comprendre comment mieux s'occuper de son enfant, éventuellement déceler des difficultés chez ses enfants. Et donc toutes ces actions-là sont des actions qui sont tellement permanentes dans la durée, entre la petite enfance et jusqu'à l'âge vieillissant, jusqu'à la fin de vie, eh bien, toutes ces actions-là font que nous sommes présents finalement auprès du quotidien de toutes les Girondines et Girondins.
Et comment sont financées toutes ces actions?
Alors, c'est une très bonne question, puisque pendant très longtemps, nous avions les impôts locaux, c'est-à-dire taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, et même autrefois la taxe professionnelle, qui servait de recette au département pour financer notre action publique. Depuis relativement peu de temps, d'ailleurs, depuis 2 ans, nous n'avons strictement plus aucun impôt à lever, donc les contribuables girondins ne financent plus directement les départements, en tout cas le département de la Gironde, et c'est l'État qui nous verse des dotations et qui donc nous mettent en situation de dépendance, c'est-à-dire que l'État peut décider d'ouvrir plus ou moins le robinet de ces dotations et donc nous pouvons avoir plus ou moins de recettes pour financer nos dépenses, ce qui est un vrai sujet pour nous parce que 20 000 habitants de plus par an signifie chaque année plus de dépenses. 20 000 habitants, c'est 1000 collégiens qui arrivent chaque année, donc c'est plus d'un collège à construire chaque année en plus, et donc évidemment avec les personnels qui vont avec. Et donc nous avons aujourd'hui une vraie inquiétude sur l'évolution des dépenses par rapport à l'évolution de nos recettes.
Le département de la Gironde souhaite cette année s'intéresser tout particulièrement à la jeunesse. Quelles actions justement seront mises en place?
Alors d'abord, nous avons énormément d'actions autour de la jeunesse qui sont, par rapport à la question tout à l'heure sur la pédagogie de ce que fait le département, qui sont quasiment invisibles parce qu'elles sont diffuses dans plein de politiques publiques différentes. Donc là, nous allons déjà donner à voir tout ce qui est fait et comment nous pouvons continuer à aider. Mais nous voulons aller plus loin, donc il y aura d'abord un moment fort qui va être un colloque qui va être organisé les 16 et 17 mai prochains, me parle pas d'âge, comme dirait Kylian Mbappé, et qui va permettre de travailler sur cette question de la jeunesse et d'essayer de comprendre ce que sont les jeunesses. Parce qu'on dit souvent la jeunesse, mais en réalité, les parcours des jeunes sont très divers. Leur origine sociale peut être aussi très différente, leurs difficultés peuvent être différentes. Et l'idée, c'est de travailler aux particularités de ces jeunesses-là. Nous allons rencontrer aussi des jeunes pour parler avec eux, pour voir ce qu'ils attendent de nous, d'abord ce qu'ils comprennent de ce que nous sommes dans notre rôle d'élu, et voir ce qu'ils attendent de nous au niveau notamment du département. J'ai eu l'occasion déjà de rencontrer une vingtaine de jeunes assez récemment là-dessus. Et donc ce qui est intéressant, c'est de recueillir leurs paroles parce que d'abord les générations passent de plus en plus vite. J'ai un fils de 26 ans qui me dit: moi je comprends plus les jeunes de 18 ans. Donc c'est voir à quel point les générations peuvent passer rapidement. Donc nous avons besoin de recueillir cette parole-là. Ensuite nous souhaitons compléter les dispositifs que nous avons mis en place déjà. Nous avons par exemple ce qu'on appelle des plateformes de repérage. Il faut savoir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont dans aucun radar. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas scolarisés, ils ne sont pas dans les missions locales, ils ne sont pas en lien avec nos travailleurs sociaux, et donc ils disparaissent de la circulation, ils sont en rupture de lien social. Il faut aller capter ces jeunes-là pour les ramener dans le champ justement du lien social et voir comment leur redonner un parcours. Nous avons évidemment, nous, à nous questionner sur la protection de l'enfance et ces jeunes qui, lorsqu'ils en sortent, peuvent se retrouver sans emploi, parfois à la rue aussi, et donc ça n'est pas acceptable parce qu'on les a accompagnés précédemment. Comment garantir le maintien du lien pour leur permettre éventuellement un droit à l'erreur dans le parcours qu'ils vont commencer à accomplir en tant qu'adultes et les aider à retrouver un parcours qui soit plus stabilisé. Donc voilà, ce sont plein d'actions qu'il va falloir travailler au plus près et de façon très fine, comme une dentelle, pour faire en sorte qu'on puisse être en réponse à ces jeunes. On a vu pendant la période du confinement combien les étudiants ont été en souffrance et nous avions à ce moment-là accentué nos dispositifs et notre aide alimentaire pour ces jeunes, dont certains se nourrissent mal, n'ont pas les moyens de se nourrir correctement et parfois pour certains d'entre eux dorment aussi dans leur voiture alors qu'ils ont des emplois qui sont sous-payés. Je pense aux livreurs, tous les livreurs, Uber, etc. On voit que ce sont vraiment des emplois au rabais et donc des conditions de travail difficiles pour ces jeunes avec en plus des conditions de vie qui le sont aussi. Ils rencontrent des difficultés de logement. On sait aujourd'hui ce que représente le manque de logement sur Bordeaux Métropole en particulier et aussi les prix des logements. Donc ça les oblige à trouver des solutions palliatives qui sont généralement assez peu satisfaisantes, qui ne durent pas dans le temps. Ils trouvent des systèmes un peu d'hébergement chez l'un ou chez l'autre, mais ils n'ont pas de situation stable. Donc on sent bien qu'il y a des situations qui sont très diverses au niveau des jeunes. Et ce que constate un certain nombre d'entre eux, c'est que justement, ils aimeraient aider plus ceux qui sont plus en difficulté. Et c'est aussi là que peuvent intervenir les politiques publiques départementales.
Et cette fois, pour tous les Girondins, le département veut mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation.
Alors d'abord, le point d'entrée, c'est que nous considérons que l'alimentation est un droit fondamental comme le logement. Or, je l'évoquais tout à l'heure pour les jeunes, mais c'est valable pour des personnes âgées, c'est valable pour plein de catégories de population. Certains habitants de ce département ne peuvent pas se nourrir correctement. Parfois, on sait que le repas, par exemple, servi au collège est le seul repas équilibré de la journée pour certaines collégiennes et collégiens. Pour nous, le droit à l'alimentation est fondamental. Donc, nous avons décidé d'imaginer, avec une association, enfin un collectif qui s'appelle Acclimatation, de mettre en place quelque chose qui n'a jamais été expérimenté en France, qui serait une sécurité sociale de l'alimentation, donc qui permettrait à celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à une alimentation de qualité, de pouvoir en bénéficier au travers de quelque chose qui reste à construire et à imaginer. Parce qu'aujourd'hui, la solution, souvent, c'est le hard discount, avec une nourriture industrielle qui est de très mauvaise qualité. Alors, l'idée, c'est de travailler avec celles et ceux qui attendent de nous quelque chose sur ce sujet-là. Nous avons fait un séminaire sur 2 jours à Arcachon, dans un domaine qui appartient à la ville de Bordeaux, puisque nous travaillons aussi en lien avec la ville de Bordeaux là-dessus, pour recevoir une 40aine de citoyens pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils attendent de cet objet un peu étrange que serait une sécurité sociale de l'alimentation. Nous allons travailler pendant plusieurs mois avec eux dans le courant de l'année 2023 pour concevoir ce que nous pourrions faire à partir de là. Est-ce que ce sont des bons? Est-ce que c'est quelque chose qui leur est remis d'une façon particulière? Comment est-ce qu'on peut traduire cette sécurité sociale de l'alimentation? L'idée, c'est de réfléchir comment a été la sécurité sociale santé après le Conseil national de la Résistance pour faire en sorte d'avoir un nouvel objet qui soit une garantie sur la question alimentaire. Donc je ne sais pas encore quelle forme cela va prendre, mais je suis allé assister à une journée avec les citoyens. C'était intéressant de voir les sollicitations et les attentes de leur part. Nous allons voir comment construire cette sécurité sociale et nous espérons pouvoir, en 2024, tenter une expérimentation dans ce département de la Gironde, qui serait donc une première en France aujourd'hui.
Autre idée girondine, une mutuelle proposée par le département.
C'est une idée girondine, je pense, dans la manière de l'approcher. Il existe aujourd'hui des dispositifs, Ma Commune, Ma Santé, qui consistent plutôt à mettre en concurrence un certain nombre d'organismes mutualistes pour faire la meilleure proposition possible à un groupe d'habitants. Pour nous, l'idée, c'était de voir comment, à une échelle départementale, d'abord, nous pouvions garantir un accès aux soins, parce que là aussi, nous sommes sur un droit fondamental. Nous savons combien la santé est une caractéristique de des disparités, des fractures sociales qui peuvent exister. Et donc, à ce titre, il nous semblait qu'il fallait impérativement aider des personnes qui ont peu de moyens à pouvoir avoir une mutuelle qui leur permette d'avoir des soins dentaires ou des soins ophtalmologiques qui sont généralement coûteux. Donc, c'est effectivement une idée girondine à ce stade, parce que personne, je crois, ne l'a tenté au niveau d'un département. Nous sommes en train d'essayer de regarder comment le construire. C'est un sujet là aussi un peu difficile. Chaque fois qu'on expérimente, on est confronté à quelques obstacles. Il faut regarder les volets un petit peu juridiques, réglementaires, ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons le faire. Donc ce travail est en cours et là aussi nous espérons pouvoir aboutir à une expérimentation à terme.
Et pour rendre la santé accessible à tous les habitants, des laboratoires d'analyse mobile vont être déployés dans tous les territoires du département.
Alors nous avions mis en place un Vaccibus pendant la période du Covid, la période de crise sanitaire, pour réaliser donc des vaccinations. L'idée maintenant, c'est de transformer ce principe qui a fonctionné en 2023 au travers de 2 véhicules qui vont circuler dans le département et qui seront là aussi inédits en France, puisqu'ils vont transporter un laboratoire mobile qui pourra permettre de réaliser 4 séries de tests avec les résultats qui seront produits sur place et qui permettront donc d'aider les personnes à avoir cette approche du soin au plus près sans avoir forcément à se déplacer. Et l'idée, c'est de déployer ensuite l'ensemble d'offres de services du département. On parlait de la PMI tout à l'heure. La PMI pourra ainsi se déplacer aussi au plus près dans les villages les plus isolés. On pourra probablement compléter aussi avec un certain nombre de travailleurs sociaux. Mais en tout cas, ce projet est bien engagé désormais, puisque les véhicules sont acquis. Nous sommes en train de les équiper et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous pourrons effectivement les mettre en circulation dans le département.
Autre idée girondine, le revenu de base, qui a été repris d'ailleurs par d'autres départements, mais qui n'a pas pu encore voir le jour.
L'idée, c'était de fusionner le RSA et la prime d'activité ensemble, et d'y ajouter de l'argent au niveau national pour garantir un revenu qui permette de se trouver, de ne jamais se trouver en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est déjà pas faramineux. Et donc nous, dans l'expérimentation, l'idée c'était que ce revenu puisse être accordé non pas de façon universelle, on avait plutôt fait des choix nous sur des catégories, notamment pour y inclure les 18-25 ans. Il faut savoir que les 18-25 ans n'ont pas accès au RSA et que un certain nombre d'entre eux se trouvent en grande difficulté alors qu'ils qui n'ont aucun complément de revenus. Donc il faut impérativement les aider. Donc nous les avions inclus dedans. Et l'idée, c'était que ce soit inconditionnel via un versement du type aujourd'hui impôt à la source, qui est qui soit un versement systématique sur ces catégories-là, de manière à ce qu'il n'ait pas à solliciter le droit, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 30% de celles et ceux qui pourraient accéder au RSA n'en font pas la demande, soit parce qu'ils ignorent le droit, soit parce que c'est trop compliqué pour eux, soit parce que culturellement, ils ne veulent pas faire appel à une allocation sociale. Le fait d'avoir un versement inconditionnel permettait d'éviter de stigmatiser les populations comme étant bénéficiaires d'une aide sociale. Alors nous avions en 2019, nous étions arrivés au bout de ce que nous pouvions faire à l'époque, c'est-à-dire une proposition de loi. Cette proposition de loi est arrivée à l'Assemblée nationale. Le débat a été refusé par la majorité de l'Assemblée nationale à ce moment-là, ce qui est regrettable parce que plusieurs formations politiques d'obédience diverses étaient plutôt intéressées au moins pour avoir le débat. Donc malheureusement, nous avons été bloqués à ce stade-là. Nous ne pouvons pas pour l'instant aller plus loin puisqu'il faut modifier. En tout cas, il faut que la loi nous permette l'expérimentation pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc pour l'instant, nous en sommes au stade où le projet reste au chaud. Nous sommes prêts à le ressortir si besoin. Nous pensons que la période de confinement a démontré l'utilité du revenu de base qui aurait été nécessaire à un certain nombre, notamment de jeunes qui étaient en difficulté. On voit aujourd'hui, et j'ai eu l'occasion lors de la rencontre citoyenne sur la sécurité sociale alimentaire, de voir aussi que certaines personnes trouveraient intéressant d'avoir le revenu de base. On voit la question des aidants, des femmes qui arrêtent de travailler pour s'occuper d'un enfant en situation de handicap et qui, au bout de quelques années, ne peuvent plus vivre correctement, en plus parfois avec des conjoints qui les ont quittés dans ces périodes de difficulté. Donc le revenu de base nous paraît plus que jamais nécessaire dans la période de difficulté sociale que nous vivons et qui s'accroît.
Pour retrouver plus d'infos sur le département de la Gironde, rendez-vous sur gironde.fr.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment. Vous êtes sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Bonjour à tous. La rédaction de 8FM a décidé de faire ses valises pour aller faire un petit tour sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors que l'on s'envole tout droit vers la période estivale, l'aéroport a fait en ce début du mois de mars un point sur son programme pour le printemps-été 2023. Pas moins de 13 nouvelles destinations sont annoncées. Simon Dréchel est le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.
Oui, absolument. On est en train de reconstruire le trafic sur l'aéroport de Bordeaux. Donc on réouvre des destinations et puis on a des destinations inédites également qui seront au programme. On voit qu'on a mis le paquet sur l'Allemagne avec une offre qui s'étoffe énormément, avec beaucoup de nouvelles villes sur l'Allemagne, avec des acteurs non seulement économiques mais du tourisme qui ont plébiscité cette destination. Donc c'est le gros volet de nos nouveautés, se situe notamment sur l'Allemagne. Après c'est tout le réseau qui se renforce et on a maintenant une centaine de destinations pour à disposition à l'aéroport de Bordeaux.
L'Allemagne avec entre autres Stuttgart pour les destinations inédites, inédits aussi Paphos à Chypre et Eindhoven aux Pays-Bas. L'aéroport a aussi pour objectif de se focaliser sur les hubs, ces grands aéroports qui permettent de faire une connexion avec certaines destinations impossibles en direct depuis Bordeaux.
Alors on s'intéresse aux hubs parce que notre propre mission finalement c'est d'offrir de la connectivité, et donc quand on se connecte à des hubs, c'est-à-dire plutôt des grands aéroports qui offrent beaucoup de vols et de la connectivité vers de nombreuses villes, on travaille finalement notre réseau de destinations aussi. Donc en se connectant à un autre aéroport, on offre beaucoup de destinations au territoire qui est le nôtre. Donc on a un relais de croissance qui est très important sur ce sujet-là, et puis surtout on dessert les besoins des entreprises et du loisir sur le territoire.
2023 sera aussi l'année de l'arrivée du tram A au pied du tarmac bordelais.
2023 sera officiellement l'entrée dans la multimodalité. Vous arriverez à l'aéroport de Bordeaux avec le tram, avec des moyens de bus à haut niveau de service, avec votre véhicule léger, les pistes cyclables sont opérationnels. Donc on est vraiment un outil multimodal désormais. Ça c'est important parce que ça fait partie de notre stratégie de desservir le territoire avec des moyens de transport très variés. Puis surtout c'est un moyen qui améliore nos bilans carbone aussi. C'est ce qu'on travaille désormais. Donc c'est tout bonus.
Alors si les voyageurs sont de retour, le niveau d'avant Covid n'a pas été rattrapé. Le nombre de voyageurs comptabilisés avant la pandémie ne sera d'ailleurs pas atteint avant 2027. Mais la politique au sein de l'aéroport a aussi évolué sur l'après-Covid. L'idée n'est plus de faire du volume pour faire du volume. Les questions environnementales ont pris le pas sur cette question de volume.
À l'aéroport, on souhaite desservir un marché. Notre marché, c'est le territoire, c'est la métropole de Bordeaux, c'est la Gironde, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on met un point d'honneur à sélectionner nos marchés et à ouvrir des lignes à haute valeur ajoutée. Je pense que le monde change malgré tout. Alors, c'est sûr que les voyageurs reviennent. C'est sûr qu'on est en train de reconstruire notre trafic. On sera, nous, en 2027 au trafic 2019. Donc on est encore bien loin du trafic qu'on connaissait. Et donc on est assez vigilant. Je pense que le monde change et qu'on reconstruit ce trafic un peu différemment de ce qu'on pouvait faire.
Et l'aéroport de Bordeaux-Mérignac s'est d'ailleurs doté d'une feuille de route pour décarboner son activité au sol.
Bienvenue au cœur de la nuit. On passe d'un sujet intéressant à un autre. C'est ça, la nuit sur 8FM.
C'est bientôt un océan qui pourrait les séparer. Paul est français, Elmer est américain. Le couple s'est rencontré en 2020 alors qu'Elmer venait d'arriver en France pour devenir assistant de langue dans les établissements scolaires des Landes. Très vite, ils s'installent ensemble à Talence, près de Bordeaux, où habite Paul. Se paxent et pensent vivre des jours heureux en Gironde. C'était sans compter sur cette mauvaise nouvelle reçue fin octobre 2022.
Eh bien, aujourd'hui, Elmer est placé sous le coup d'une OQTF. Donc il doit quitter le territoire français sous maintenant 18 jours, voilà. On va être séparés alors que nous sommes paxés et nous vivons ensemble.
Elmer avait déposé un premier dossier pour une demande de titre de séjour en février 2022. Sans réponse, au bout de quelques mois de la préfecture, il avait donc décidé de renvoyer un second dossier. Et pour toute réponse, lui est revenu fin octobre une mise sous OQTF, obligation de quitter le territoire français au 25 mars. un choc pour le couple.
On ne s'y attendait pas du tout, eu égard toutes les preuves de communauté de vie qu'on avait mis dans notre dossier. D'autant plus qu'on avait déposé notre premier dossier il y a plus d'un an. Nous n'avons jamais eu de retour ni la possibilité d'avoir personne de la préfecture, puisque pas de guichet pour ce type de demande et impossibilité d'avoir quelqu'un au téléphone. Nous avons redéposé un deuxième dossier et donc à l'issue, nous avons reçu directement une OQTF 8 mois plus tard et on ne nous a jamais d'ailleurs renvoyé les dossiers alors que nous avions mis les enveloppes affranchies, donc pour pouvoir comprendre éventuellement s'il y avait quelque erreur que ce soit. Voilà.
Oui, personnellement, moi, du coup, je m'en souviens toujours, c'était en rentrant des vacances en novembre, on avait récépissé qu'on avait une lettre recommandée qu'il fallait aller récupérer. Et donc moi j'étais surexcité, content, je me suis dit ouh, enfin une réponse de la préfecture. Donc je me suis précipité vers la poste et quand j'ai récupéré la lettre, que je l'ai ouverte et j'ai lu, je ne comprenais pas ce que je venais de recevoir. Et là j'ai senti mon cœur qui est tombé au sol. Je me suis dit mais pourquoi on est en train de m'expulser, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Et donc oui, c'était pendant quelques secondes, je suis resté debout, je ne comprenais pas.
C'est donc un vrai combat administratif qui s'est mis en place.
On a conscience effectivement que la préfecture est débordée, que c'est une grosse machine. Et on a la sensation d'avoir été broyé d'être passé à la trappe dans la foultitude des dossiers. C'est pour ça aujourd'hui qu'on veut alerter sur notre situation et dire attendez, on est là, regardez s'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà. Et je voulais revenir sur votre question précédente concernant la France et les États-Unis. C'est que, de mon côté, nous, en tant que Français, ma famille, ça les a vraiment marqués qu'on traite elle-mère de cette façon, puisque ma grand-mère était sur les chars américains lors de la libération de la France à Romilly-sur-Seine. Voilà. Nous, on a un lien fort avec cette histoire et c'est vrai que ça nous a un petit peu ça nous a fait mal en somme de voir qu'il soit traité comme ça et surtout une OQTF d'un coup qui est aucun courrier explicatif ou quoi que ce soit. Voilà, c'est cette façon un petit peu c'est un peu du mépris finalement de traiter elle-mère. Voilà ce qu'on nous reproche. C'est concrètement que notre communauté de vie n'est pas réalisée depuis depuis pas suffisamment longtemps, alors que pourtant nous sommes en couple depuis 2020. Nous vivons nous avons vécu à travers différents pays certes, mais la réalité de notre communauté de vie est là. Nous avons fait un recours administratif qui n'a pas, si vous voulez, abouti, ou qui a abouti, on va dire, défavorablement, avec un jugement, avec une erreur sur le prénom. Le prénom de Elmer a été remplacé par celui de Bayem. À noter aussi que, c'est un recours administratif, mais nous étions présents et à aucun moment on ne nous a interrogés pour s'assurer de la véracité éventuellement de la communauté de vie, tout comme nous n'avons jamais eu d'ailleurs d'échange avec la préfecture sur notre communauté de vie. À l'issue de ce jugement, étant donné que, l'appel ne suspend pas l'OQTF contrairement au recours, nous avons alerté sur notre situation suite à cette OQTF, puisque c'est en train, si vous voulez, de nous séparer, ce qui est en somme contraire à la Convention européenne des droits de l'homme dont la France est signataire.
Un quotidien pour Elmer qui le prive de travailler ou d'avoir une vie sociale. Ses journées se résument à rester à la maison maison, continuer son apprentissage du français et attendre que la journée passe.
Si je ne peux pas travailler, je ne peux pas gagner ma vie, je ne peux pas vraiment faire des dépenses non plus. Donc ça, c'est vrai, pas de vie sociale, pas au moins une vie normale. Et à part ça, après le choc d'avoir reçu l'OQTF, je crois qu'à chaque fois où on se renseigne, on garde toujours un peu l'espoir parce qu'il y a toujours une procédure à faire. Et donc, à chaque fois, on se dit, ah bah ok, maintenant on va passer à la prochaine étape et peut-être cette fois-ci, il y aura les juges qui auront clémence de notre situation, qui vont étudier les dossiers, qui vont voir que malgré tout, on est ensemble, on est en couple, un véritable couple depuis plus de 2 ans à ce stage-là. Et à chaque fois, on reçoit des mauvaises nouvelles. Quoi. C'est juste là, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là, on se retrouve vraiment dans une situation un peu...
Mais vous gardez espoir quand même? Vous avez toujours...
Là, disons que... Ça fait, parce que c'est vrai qu'on a passé peut-être plus d'une semaine qu'on dort pas très bien, qu'on mange pas très bien, parce qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire d'autre et pour faire nos voix, que les gens nous entendent. Et après, l'espoir pour moi, c'est toujours, si je dois partir, d'accord, je sais pas, je veux pas partir comme ça, mais j'ai l'espoir que en tant que couple, on va continuer à surmonter toutes ces épreuves. Donc oui, l'espoir pour notre couple, je le garde toujours. Après, avec la préfecture française ou la préfecture ici dans la Gironde, je ne sais pas à quoi m'attendre.
Les deux hommes vont frapper à toutes les portes pour tenter de trouver une solution et avoir un maximum de soutien.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier tout spécifiquement l'équipe municipale de Talence et M. Salaberry qui ont répondu présent de suite, voilà, et qui nous accompagnent. Puisque moi je vis sur la commune de Talence depuis 18 ans, hein, voilà. Et on remercie aussi notre député de circonscription et son assistant, Monsieur Prudhomme et Monsieur Justhomme, qui ont aussi été à l'écoute de notre situation. Et qui ont également tenté d'alerter la préfecture afin qu'il puisse y avoir un regard bienveillant sur notre dossier. D'ailleurs, nous avons déposé un troisième dossier. Nous l'avons adressé hier pour nous donner toutes les chances et encore montrer davantage la réalité de notre communauté de vie. Voilà.
Après avoir utilisé tous les recours, Elmer doit se résoudre à partir.
Je n'ai pas vraiment le choix. Je vais rentrer parce que d'abord, j'ai mes parents qui vont faire des efforts pour m'accueillir et en attendant à voir ce qu'on peut faire d'autre pour rester ensemble. Sinon, je ne peux pas rester dans l'illégalité, je ne veux pas de problème. Moi, j'adore la France. J'ai beaucoup de beaux liens, de belles relations avec presque tous les gens que je rencontre. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens très bien ici. Et j'aimerais bien que cette histoire se finisse. J'aimerais bien, si je dois partir, pouvoir revenir le plus tôt possible. Comme je vous ai dit, le plus important pour moi, c'est mon couple, de rester ensemble. Donc là, vraiment, une réponse concrète, je ne peux pas vous donner parce qu'on est toujours en train de voir si jamais on aura une réponse de la préfecture. En attendant, il faut faire le plan B, plan C, plan D. Mais juste une chose que je veux dire, c'est que jusqu'ici, j'étais vraiment, vraiment ému par... les réponses des de la part de mes amis aux États-Unis, tout, partout dans le monde, et ici aussi tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, parce que le soutien que ça me met un peu les larmes aux yeux quand j'ai envoyé des messages pour raconter à tous ces gens ce qui était en train de se passer, et que tout le monde me disait tu nous diras si on peut faire quelque chose pour toi, ou si tu as besoin d'une lettre, tu as besoin de soutien, d'appui. Pour moi, ça parle en quantité, ça m'a beaucoup touché.
Paul, lui, pense de plus en plus sérieusement à partir s'installer aux États-Unis pour permettre à son couple de survivre.
Eh bien, oui, c'est une éventualité de partir aux États-Unis si on ne peut pas bénéficier de notre droit à vivre ensemble ici. Mmh. Voilà. Oui, tout à fait. Ça signifierait tout quitter. C'était pas le choix initial, hein, mais je suis prêt à le faire, bien sûr.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
Looking up at the stars, oh, through the nebula dust, I will find you, my love. Oh, I need a light, a telescope, a compass to tell me when I'm close. Gravity help me to come home, home to you. Galileo.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
C'est bientôt un océan qui pourrait les séparer. Paul est français, Elmer est américain. Le couple s'est rencontré en 2020 alors qu'Elmer venait d'arriver en France pour devenir assistant de langue dans les établissements scolaires des Landes. Très vite, ils s'installent ensemble à Talence, près de Bordeaux, où habite Paul, se paxent et pensent vivre des jours heureux en Gironde. C'était sans compter sur cette mauvaise nouvelle reçue fin octobre 2022.
Eh bien, aujourd'hui, Elmer est placé sous le coup d'une OQTF. Donc il doit quitter le territoire français sous maintenant 18 jours, voilà. Du coup, on va être séparés alors que nous sommes paxés et nous vivons ensemble.
Elmer avait déposé un premier dossier pour une demande de titre de séjour en février 2022, sans réponse au bout de quelques mois de la préfecture. Il avait donc décidé de renvoyer un second dossier et pour toute réponse, lui est revenu fin octobre une mise sous OQTF, obligation de quitter le territoire français au 25 mars. Un choc pour le couple.
On ne s'y attendait pas du tout, eu égard toutes les preuves de communauté de vie qu'on avait mis dans notre dossier. D'autant plus qu'on avait déposé notre premier dossier il y a plus d'un an. Nous n'avons jamais eu de retour ni la possibilité d'avoir personne de la préfecture puisque pas de guichet pour ce type de demande et impossibilité d'avoir quelqu'un au téléphone. Nous avons redéposé un deuxième dossier et donc à l'issue, nous avons reçu directement une OQTF 8 mois plus tard et on ne nous a jamais d'ailleurs renvoyé les dossiers alors que nous avions mis les enveloppes affranchies, donc pour pouvoir comprendre éventuellement s'il y avait quelque erreur que ce soit. Voilà.
Oui, personnellement, moi, du coup, je m'en souviens toujours, c'était en rentrant des vacances en novembre, on avait récépissé qu'on avait une lettre recommandée qu'il fallait aller récupérer. Et donc moi j'étais surexcité, content, je me suis dit ouh, enfin une réponse de la préfecture. Donc je me suis précipité vers la poste et quand j'ai récupéré la lettre, que je l'ai ouverte et j'ai lu, je ne comprenais pas ce que je venais de recevoir et là j'ai senti mon cœur qui est tombé au sol. Je me suis dit mais pourquoi on est en train de m'expulser, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, et donc oui, c'était pendant quelques secondes, je suis resté debout, je ne comprenais pas.
C'est donc un vrai combat administratif qui s'est mis en place.
On a conscience effectivement que la préfecture est débordée, que c'est une grosse machine. Et on a la sensation d'avoir été broyé d'être passé à la trappe dans la foultitude des dossiers. C'est pour ça aujourd'hui qu'on veut alerter sur notre situation et dire attendez, on est là, regardez s'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà. Et je voulais revenir sur votre question précédente concernant la France et les États-Unis. C'est que, de mon côté, nous, en tant que Français, ma famille, ça les a vraiment marqués qu'on traite Elmer de cette façon, puisque ma grand-mère était sur les chars américains lors de la libération de la France à Romilly-sur-Seine. Voilà. Nous, on a un lien fort avec cette histoire et c'est vrai que ça nous a un petit peu ça nous a fait mal en somme de voir qu'il soit traité comme ça et surtout une OQTF d'un coup qui est aucun courrier explicatif ou quoi que ce soit, voilà. C'est cette façon un petit peu c'est un peu du mépris finalement de traiter Elmer. Voilà. Ce qu'on nous reproche c'est concrètement que notre communauté de vie n'est pas réalisée depuis depuis pas suffisamment longtemps, alors que pourtant nous sommes en couple depuis 2020. Nous vivons nous avons vécu à travers différents pays certes, mais la réalité de notre communauté de vie est là. Nous avons fait un recours administratif qui n'a pas abouti, ou qui a abouti, on va dire, défavorablement. avec un jugement, avec une erreur sur le prénom. Le prénom de Elmer a été remplacé par celui de Bayem. À noter aussi que, bon, c'est un recours administratif, mais nous étions présents et à aucun moment on ne nous a interrogés pour s'assurer de la véracité éventuellement de la communauté de vie, tout comme nous n'avons jamais eu d'ailleurs d'échange avec la préfecture sur notre communauté de vie. Et donc, à l'issue de ce jugement, étant donné que, si vous voulez, l'appel ne suspend pas l'OQTF contrairement au recours, nous avons alerté sur notre situation suite à cette OQTF, puisque c'est en train, si vous voulez, de nous séparer, ce qui est en somme contraire voilà, à la Convention européenne des droits de l'homme dont la France est signataire.
Un quotidien pour Elmer qui le prive de travailler ou d'avoir une vie sociale. Ses journées se résument à rester à la maison, continuer son apprentissage du français et attendre que la journée passe.
Si je ne peux pas travailler, je ne peux pas gagner ma vie, je ne peux pas vraiment faire des dépenses non plus. Donc ça, c'est vrai, pas de vie sociale, pas au moins une vie normale. Et à part ça, après le choc d'avoir reçu l'OQTF, je crois qu'à chaque fois où on se renseigne, on garde toujours un peu l'espoir, parce qu'il y a toujours une procédure à faire. Et donc, à chaque fois, on se dit, ah bah, ok, maintenant, on va passer à la prochaine étape, et peut-être cette fois-ci, il y aura les juges qui auront clémence de notre situation, qui vont étudier le dossier, qui vont voir que, malgré tout, on est ensemble, on est en couple, un véritable couple depuis plus de 2 ans à ce stage-là. Et à chaque fois, on reçoit des mauvaises nouvelles. Quoi. C'est juste là, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là, on se retrouve vraiment dans une situation un peu...
Mais vous gardez espoir quand même? Vous avez toujours...
Là, disons que... Ça fait, parce que c'est vrai qu'on a passé peut-être plus d'une semaine qu'on dort pas très bien, qu'on mange pas très bien, parce qu'on est en train de voir ce qu'on peut faire d'autre et pour faire nos voix, que les gens nous entendent. Et après, l'espoir pour moi, c'est toujours, si je dois partir, d'accord, je sais pas, je veux pas partir comme ça, mais j'ai l'espoir que en tant que couple, on va continuer à surmonter toutes ces épreuves. Donc oui, l'espoir pour notre couple, je le garde toujours. Après, avec la préfecture française ou la préfecture ici dans la Gironde, je ne sais pas à quoi m'attendre.
Les deux hommes vont frapper à toutes les portes pour tenter de trouver une solution et avoir un maximum de soutien.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, mais nous tenons à remercier tout spécifiquement l'équipe municipale de Talence et M. Salaberry qui ont répondu présente de suite, voilà, et qui nous accompagnent. Puisque moi je vis sur la commune de Talence depuis 18 ans, hein, voilà. Et on remercie aussi notre député de circonscription et son assistant, Monsieur Prudhomme et Monsieur Jussomme, qui ont aussi été à l'écoute de notre situation. Et qui ont également tenté d'alerter la préfecture afin qu'il puisse y avoir un regard bienveillant sur notre dossier. D'ailleurs, nous avons déposé un troisième dossier. Nous l'avons adressé hier pour nous donner toutes les chances et encore montrer davantage la réalité de notre communauté de vie. Voilà.
Après avoir utilisé tous les recours, Elmer doit se résoudre à partir.
Je n'ai pas vraiment le choix. Je vais rentrer parce que d'abord, j'ai mes parents qui vont faire des efforts pour m'accueillir et en attendant à voir ce qu'on peut faire d'autre pour rester ensemble. Sinon, je ne peux pas rester dans l'illégalité, je ne veux pas de problème. Moi, j'adore la France. J'ai beaucoup de beaux liens, de belles relations avec presque tous les gens que je rencontre. je sais pas comment expliquer, mais je me sens très bien ici et j'aimerais bien que cette histoire se finisse. J'aimerais bien, si je dois partir, pouvoir revenir le plus tôt possible. Bah, comme je vous ai dit, le plus important pour moi, c'est mon couple, de rester ensemble. Donc là, vraiment, une réponse concrète, je peux pas vous donner parce que on est toujours en train de voir si jamais on aura une réponse de la préfecture. En attendant, il faut faire le plan B, plan C, plan mais juste une chose que je veux dire, c'est que jusqu'ici, j'étais vraiment, vraiment ému par les réponses de la part de mes amis aux États-Unis, partout dans le monde, et ici aussi tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, parce que le soutien, que ça me met un peu les larmes aux yeux quand j'ai envoyé des messages pour raconter à tous ces gens ce qui était en train de se passer, et que tout le monde me disait tu nous diras si on peut faire quelque chose pour toi, ou si tu as besoin d'une lettre, tu as besoin de soutien, d'appui. Pour moi, ça parle en quantité, ça m'a beaucoup touché.
Paul, lui, pense de plus en plus sérieusement à partir s'installer aux États-Unis pour permettre à son couple de survivre.
Eh bien, oui, c'est une éventualité de partir aux États-Unis si on ne peut pas bénéficier de notre droit à vivre ensemble ici. Mmh. Voilà. Oui, tout à fait. Ça signifierait tout quitter. C'était pas le choix initial, hein, mais je suis prêt à le faire, bien sûr.
Bonne nuit sur 8FM, voici votre musique préférée.
I'm back from the dead, from the back. back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the mess. With my eyes closed, turn up, turn out the lights. I could do this with my eyes closed, turn up, turn out the lights. I could do this with my eyes. Less medications, less manifestations, mantras, meditation. Throw it all away. All the places I've been, all the blood that I've bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. Lock me up in the maze. With my eyes closed, turn up, turn out the lights. I could do this with my eyes closed, turn up, turn out the lights. I could do this with my eyes closed. And when the day broke, buried in violence, something made my mind up. I will spend these days as an island, alone and far away.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble.